Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Philippe Baudouin. À la technique, Thibaut Nassimben.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Aujourd'hui encore, nous traversons le Rhin pour observer au plus près l'économie allemande en plein doute existentiel au terme de 10 années de prospérité. Alors que s'essouffle le modèle de croissance qui a fait de l'Allemagne la 4e économie mondiale, la peur du déclassement ressurgit dans le pays et les fractures sociales et territoriales apparaissent au grand jour. Selon la fondation Bertelsmann, parmi les 40 communes les plus pauvres d'Allemagne, 35 se trouvent en ex-RDA. Le mur de Berlin est tombé il y a 30 ans, mais les inégalités est-ouest demeure, alimentant le vote en faveur de l'extrême droite. Il est 14h à Paris et à Berlin. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler des inégalités en Allemagne en compagnie de Michel Venachter, maître de conférence en études germaniques contemporaines à l'université de Cergy-Pontoise et à Sciences Po, et co-directrice de cet ouvrage paru il y a quelques années, L'Allemagne 20 ans après la chute du mur, paru donc aux presses universitaires du Septentrion. En compagnie également d'Anne Sall, maître de conférence à Sorbonne Université, spécialiste des questions de démographie et de politique familiale en France et en Allemagne. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Quand il s'agit de nos retraites, le gouvernement hésite. Est-ce qu'il y a assez d'argent? Peut-on encore financer le système? Mais pour les étrangers, pas d'hésitation. Merkel ne demande pas « est-ce qu'on a 1 ou 2 milliards ?» Pour eux, de l'argent, il y en a toujours.
Prenez une famille syrienne. Le père, la mère et 2 enfants. Elle, 400 euros. Lui, 400 euros. Les enfants, 200 euros chacun. Un logement gratuit, cuisine intégrée, assurance, échauffage compris, c'est de la folie. De la folie.
Elle aurait dû en faire plus. Pas seulement pour les réfugiés, contre qui je n'ai rien d'ailleurs. Mais elle aurait dû aussi penser à nos enfants et aux personnes âgées.
Michel Venachter et Anne Sall, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vient d'entendre les témoignages de plusieurs électeurs de l'AFD, Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne en français. Le parti d'extrême droite a effectué une percée lors des élections régionales en Brandebourg et en Saxe au début du mois. Et d'abord, qu'est-ce que cette forte poussée de l'AFD nous dit des inégalités en Allemagne, Michel Venachter?
Alors en réalité, les raisons du vote AFD sont multiples. Et cette question des inégalités est un facteur parmi d'autres. Je vais essayer de synthétiser en fait les questions sur la fois historique, politique, économique, effectivement et sociale. Alors historiquement, en fait, c'est une région où ils ont enchaîné 2 dictatures. Déjà, il faut comprendre ça aussi. En réalité, il y a peu de culture démocratique, d'ouverture, peu de tolérance. Et on pourrait même remonter plus loin du côté des Prussiens, puisque ça a toujours été une région qui a été marquée par un conservatisme autoritaire. Mais on va peut-être pas aller aussi loin aujourd'hui.
Mais ce que vous voulez dire, c'est que les questions économiques et sociales ne sont peut-être pas prioritaires dans ce vote.
Elles sont l'un des facteurs. En réalité, le vote AFD s'explique, c'est une forme de sonnette d'alarme de la part de beaucoup de gens. Il y en a qui sont convaincus par les idées de l'AFD, enfin si tant est que l'AFD ait des idées précises sur beaucoup de sujets, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils sont surtout focalisés sur les questions des étrangers. L'idée, c'est que les autres partis n'ont pas suffisamment pris en compte les problèmes d'une partie de la population de ces régions-là, qui a remarqué que voter AFD, finalement, ça leur permettait de se faire entendre. Ah tiens, là, ça marche, tout à coup, tout le monde en parle. Parce que les problèmes qui existent dans ces régions de l'Allemagne ne sont pas nouveaux, ils sont là depuis quand même quelques années. Seulement avant, c'était des débats internes à l'est de l'Allemagne. Maintenant, on en parle dans toute l'Allemagne, parce que le vote AFD fait parler de lui. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Mais maintenant, pour répondre sur la question des inégalités, économiquement, ça ne va pas si mal dans ces régions-là. Il faut tout de même voir que le taux de chômage dans les régions de l'Est est de 6,3, donc moins qu'en France, nettement moins qu'en France, pendant que dans les régions de l'Ouest, il est à 4,7 pour un ensemble donc de 5% sur l'ensemble de l'Allemagne. Surtout, il faut voir que il faut beaucoup nuancer en fonction des zones de l'Allemagne de l'Est dont on parle. Vous avez quelques pôles qui marchent très bien, et notamment des régions très urbanisées et très dynamiques comme celle de Dresde ou de Leipzig ou de Potsdam. Et puis vous avez des zones assez désertifiées où ces citoyens qui ont fait des efforts énormes depuis 1990 pour s'adapter se retrouvent dans des régions en déperdition, d'où les services publics ont disparu.
On va voir toutes et ces nuances, effectivement, Michel Venachter, et voir les différents problèmes, effectivement, auxquels sont confrontés les Allemands de l'Est. Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est que c'est peut-être moins la pauvreté Anne-Sahl ou les inégalités réelles, mais peut-être plus les inégalités qui peuvent être ressenties en Allemagne de l'Est par rapport à l'Allemagne de l'Ouest qui explique aujourd'hui cette percée de l'extrême droite.
Alors, effectivement, il y a quand même bel et bien des inégalités sociales et économiques, il faut quand même le rappeler, Michel l'a dit, c'est tout à fait vrai. On a par exemple un taux de pauvreté qui est sensiblement plus élevé à l'Est qu'à l'Ouest. Je prends le Mecklembourg-Poméranie occidentale, on est à presque 21% de taux de pauvreté, contre une moyenne de 15,5 en Allemagne, on est en France à 14, donc on a quand même bel et bien plus de pauvreté. On a également des salaires qui sont plus bas et qui amènent justement les jeunes qualifiés à partir à l'ouest où ils auront de meilleures chances d'avoir de meilleurs salaires. Donc ces inégalités, elles ne font aucun doute. Sur le taux de chômage, je rejoins complètement ce que vient de dire Michel. Nous avons un taux de chômage qui est bas comparé à ce qu'on a en France par exemple, qui est pour certaines régions tout à fait comparable à ce qu'on trouve dans d'autres régions de l'Ouest. Hein. On a le même taux de chômage par exemple en Rhénanie du Nord-Westphalie qu'en Mecklembourg-Poméranie occidentale. Donc finalement on se retrouve avec des différences qui se sont considérablement atténuées sur certains aspects. Alors effectivement ce sont moins les inégalités économiques telles quelles qui justifient ce vote, d'autant qu'on a pu constater par exemple en Saxe d'excellents résultats de l'AFD dans des circonscriptions où le niveau de chômage était bas, vraiment très bas comparé à d'autres circonscriptions, et également comparé justement au Mecklembourg.
Alors c'est peut-être
un niveau de chômage plus élevé. Donc effectivement, ce n'est pas que l'économie à proprement parler, mais le ressenti joue un rôle très important.
Le ressenti et l'inquiétude pour l'avenir. En Brandebourg, par exemple, le parti a réalisé ses meilleurs scores dans les régions qui produisent du charbon lignite, dont la production est menacée. C'est cette inquiétude pour l'avenir, Michel Venachter, qu'il faut reconnaître ici.
Absolument, combiné à tous les facteurs que j'ai déjà énoncés rapidement tout à l'heure, il y a une véritable inquiétude sur l'avenir. Encore plus dans toutes ces zones où la désertification a beaucoup avancé, puisque la plupart des jeunes sont partis à l'ouest et que ceux qui restent sont dans des zones où il y a peu de perspectives d'avenir. Donc si en plus de ça, on enlève l'activité qui est vraiment une activité phare pendant toute la période de la RDA et depuis encore, qui est justement l'exploitation du charbon, les gens ne voient pas du tout quel peut être leur avenir. Et dans ce contexte, évidemment, le migrant est vu comme, on l'a entendu dans le témoignage de tout à l'heure, est vu dans ce contexte comme un concurrent potentiel, et notamment pour les aides sociales. Mais comme vous le dites, c'est parce que eux-mêmes manquent de perspectives. Alors, d'autant plus que les Allemands ont maintenant décidé de sortir du charbon, et que 3 des 4 zones les concernées sont dans les nouveaux Länder. Et donc, en fait, vous avez l'ensemble de l'Allemagne qui maintenant est fortement décidée à sortir, et le plus rapidement possible, du charbon, et la problématique politique, qui est que ces régions sont déjà extrêmement fragilisées, vulnérables, avec une forte instrumentalisation de certains sujets par l'AFD, et que là, effectivement, si en plus de ça, il n'y a pas rapidement de nouvelles perspectives avec de nouveaux emplois, ça va être compliqué, y compris politiquement. Mais le Bund a promis des milliards et des milliards, justement pour aider ces régions à la reconversion.
Alors, on va revenir là-dessus, mais alors d'abord, Anne-Sahl, on a parlé de ces inégalités Est-Ouest, mais si on veut faire une géographie un peu complète des poches de pauvreté en Allemagne, il faut quand même dire que parmi les villes les plus pauvres se trouvent un certain nombre de villes du bassin industriel de la Ruhr, à l'ouest du pays, et cela en raison de la fermeture de mines et du déclin de l'acier.
Tout à fait, et dans un contexte où effectivement on a justement un taux de chômage qui est élevé dans certaines circonscriptions justement de Rhénanie du Nord-Westphalie, notamment dans des zones qui étaient traditionnellement productrices de charbon, où le taux de chômage atteint encore aujourd'hui plus de 10%, 11%. Donc effectivement, cela montre la difficulté d'ailleurs de la transition. En Allemagne de l'Est, on en a bien conscience aussi. On se retrouve dans une situation où il a quand même fallu 50 à 60 ans pour sortir du charbon. Bon, le lignite, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc effectivement, il y a énormément d'inquiétudes dans un contexte où d'ailleurs on n'a pour le moment pas de programme, on n'a pas de plan.
Vous parliez de désertification de l'ancienne RDA l'une et l'autre. Je voudrais vous faire entendre un témoignage.
Je m'appelle Alexandra,
j'ai 28 ans.
Après l'école, je suis partie étudier pendant 3 ans à Rostock et me voici de retour dans ma région.
Jetzt bin ich wieder in meine Heimat zurückgekehrt. Es ist wirklich schwierig. Also,
c'est vraiment difficile. Il y a des besoins dans des secteurs bien précis, comme la santé, l'aide aux personnes âgées, mais à part ça, beaucoup de jeunes du coin préfèrent déménager dans d'autres Länder, parce qu'il y a plus d'opportunités. Cela dit, en cherchant, on peut trouver par ici. Ça n'a pas été évident, mais au bout de 6 mois de recherche, j'ai décroché un job auprès de l'Agence régionale pour l'agriculture et le développement. J'ai eu de la chance.
Voilà un témoignage diffusé sur France Inter en 2015. Anne Sall, l'Allemagne de l'Est se vide de ses jeunes, surtout les plus qualifiés, et en plus, elle connaît une croissance démographique particulièrement faible.
Alors, la situation est quand même un petit peu plus nuancée. On a eu effectivement des départs absolument massifs puisque l'Allemagne de l'Est a perdu environ 2 millions d'habitants et ça c'est le solde, donc vraiment des départs nets, ce qui est absolument énorme et c'était effectivement avant tout des jeunes les plus qualifiés, c'est-à-dire ceux qui avaient le plus de possibilités d'avoir des salaires élevés à l'Ouest, sachant qu'à l'Est effectivement c'était pas du tout le même niveau de rémunération. Depuis plusieurs années, on n'a plus du tout ce solde migratoire négatif, il est toujours négatif, mais beaucoup moins qu'avant. Maintenant, on est de l'ordre de moins 20 000 par an. C'est plus les moins 50 000 et moins 100 000 qu'on a eu pendant un temps. Donc ça s'est quand même nettement amélioré de ce côté-là aussi.
Mais le mal est peut-être déjà fait.
Alors ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait qu'on a d'ores et déjà un vieillissement beaucoup plus prononcé en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Hein. Si vous prenez effectivement le rapport de dépendance des personnes âgées, c'est-à-dire le ratio entre les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes en âge d'activité, on est à l'Est actuellement à 47%. C'est énorme. En Allemagne de l'Ouest, on est à 36%. Ça veut dire que d'ores et déjà, nous avons à l'Est, grosso modo, 2 actifs pour payer une retraite. Ça devient déjà tendu. Là, on en a à l'Ouest 3 pour payer une retraite.
Et donc une faible natalité, alors même que justement l'Allemagne de l'Est connaissait une forte natalité avant les années 90, avant la réunification, Michel Weinachter.
Absolument. La RDA avait une natalité proche de celle de la France, autour de 2. Et ça, c'était pour des raisons également idéologique et mise en pratique. Il était souhaité dans le marxisme que les femmes travaillent au même titre que les hommes et le taux d'activité des femmes était pratiquement le même que celui des hommes avec les infrastructures qui vont avec. C'est-à-dire que dans les entreprises, vous aviez la place à la crèche. En arrivant, vous déposiez votre enfant et vous le récupériez le soir. Imaginez-vous, 1990, une bonne partie des entreprises allemandes doivent fermer pour manque de compétitivité, on va résumer comme ça. Vous perdez non seulement votre emploi, mais également vous perdez la place à la crèche. Votre loyer est multiplié par je ne sais pas combien parce que tout à coup, vous êtes passé dans une économie de marché. Et là, évidemment, vous hésitez à faire 3 ou 4 enfants. Ça, c'est clair. Et donc, la natalité est-allemande a brutalement chuté pendant l'ensemble des années 90 et n'a recommencé à monter que très récemment. Et donc là, effectivement, alors que avant la chute du mur, la natalité était relativement forte par rapport à la moyenne européenne. Elle est devenue extrêmement faible. Il y a eu vraiment une chute extrêmement brutale pour les raisons évoquées.
Et si les campagnes en particulier, peut-être plus que les villes d'ailleurs à l'Est, se vident, c'est aussi lié, comme le disait Anne Sall, à ces écarts de salaire particulièrement importants. Je crois qu'il y a un écart d'environ 500 euros entre le salaire moyen le plus bas à l'Ouest et le plus élevé à l'Est, Michel Weinachter.
En effet, cela étant, le coût de la vie n'est pas le même. Donc ça, il faut absolument aussi...
C'est à relativiser aussi.
Oui, il faut le relativiser, effectivement. Mais pour aller dans le sens, effectivement, pour donner un indice concret de ces inégalités, tout de même du point de vue aussi des salaires économiquement, il y a un chiffre qui vient de sortir. Le nombre de personnes qui travaillent à temps plein dans le secteur des bas salaires est 2 fois plus élevé, hein, c'est un peu plus de 32 à l'ouest, à l'est et à l'ouest c'est 16,3, donc il y a 2 fois plus de personnes qui travaillent dans le secteur des bas salaires à l'est qu'à l'ouest. Donc ça c'est aussi un indicateur important qui montre ça. Cela étant, faut en même temps ajouter comment est-ce qu'on calcule ça, c'est-à-dire que le secteur des bas salaires c'est en dessous de 2200 euros bruts par mois.
Alors ce qui est intéressant, c'est de noter que même si effectivement les inégalités perdurent entre l'Est et l'Ouest, les niveaux de vie entre les deux régions se sont considérablement rapprochés au cours des 30 dernières années. Anne Sall, il faut peut-être revenir un petit peu en arrière pour expliquer ça. En 1991, le produit intérieur brut par habitant de l'Allemagne de l'Est correspondait à 33% de celui de l'Ouest et aujourd'hui, ou il y a quelques années, c'était 70%. Donc il y a eu un rattrapage quand même très important.
Alors oui, il y a eu un rattrapage important, mais qui s'est produit surtout dans les années 1990. Et depuis 2000, on n'a quasiment plus de progrès. Donc on est effectivement à un PIB par habitant qui stagne à un peu plus de 70% du niveau de l'Ouest. Et on ne voit pas actuellement, c'est bien le problème des perspectives qui était évoqué par Michel Venachter tout à l'heure, on ne voit pas tellement de pistes d'amélioration. Les chercheurs actuellement estiment qu'il n'y a pas vraiment de raison que ça s'améliore de manière significative parce qu'on a une productivité donc qui est inférieure au niveau de l'Allemagne de l'Ouest. Ce qui peut s'expliquer en partie par le fait que les subventions qui sont allouées par l'État fédéral sont associées au maintien de l'emploi. Donc effectivement, tant qu'on a cette consigne-là, ça va forcément induire une productivité plus basse. Donc ça, c'est effectivement l'un des leviers qui pourrait être évoqué pour essayer de faire bouger les choses. D'ailleurs, les subventions vont changer de nature à partir de 2020. C'est la dernière année où nous conservons effectivement le mode de subvention que nous avions dans le passé.
Là, vous parlez de l'impôt Soli sur la solidarité. Ouais, alors, vous peut-être expliquer, Michel Venachter, en quoi consiste cet impôt. Et aujourd'hui, je crois que c'est 90% des contribuables allemands qui n'y seront plus assujettis à partir de cette année.
Oui, on va refaire un petit détour historique. Donc en fait, il s'agissait de financer la réunification. Enfin, au passage, on peut juste quand même rappeler qu'elle a coûté près de 1000 milliards d'euros par an depuis pendant plus de 20 ans, un peu moins depuis, mais enfin voilà. Donc c'est pour dire les Allemands globalement ont fait des efforts quand même considérables pour financer cette réunification. L'ordre d'idée me semble important. Alors il fallait quand même aussi financer tout ça et on a mis chaque Allemand à contribution. Donc chaque Allemand de l'Est et chaque Allemand de l'Ouest payait une partie d'impôts supplémentaires pour contribuer à financer donc la réunification, c'est-à-dire le renouvellement de quasiment l'intégralité des infrastructures et la remise à niveau de l'économie, etc.
Et comment alors, expliquer l'arrêt de cet impôt aujourd'hui?
Alors en fait,
la quasi-totalité de cet impôt.
Ça fait quand même 30 ans que tout le monde paye beaucoup d'argent pour cette réunification. Et si vous voulez, à l'Ouest, l'Ouest, pendant que l'Est est devenu ultra moderne, j'invite tous ceux que ça intéresse à aller voir soit sur Internet ou à aller sur place. Vous avez dans l'Allemagne de l'Est l'une des régions maintenant vraiment les plus modernes d'Europe, les universités les plus modernes d'Europe. Les bâtiments publics les plus modernes d'Europe, les trains les plus modernes d'Europe, parce que tout ça est extrêmement récent. Pendant ce temps-là, l'Allemagne de l'Ouest a continué, du point de vue de ses infrastructures, à vieillir avec des centaines de ponts au bord du délabrement, des autoroutes dans l'état que les Français déplorent quand ils traversent l'Allemagne, et etc., etc. Et donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de lenders de l'Ouest qui ont commencé à dire, bah, écoutez, après le plan Aufbau, on va peut-être faire, reconstruction de l'Est, on va peut-être aussi maintenant faire un plan, pour le dire d'une façon un peu polémique, c'est comme ça qu'ils l'ont dit, un plan de reconstruction de l'Ouest. Mmh. Et en fait, politiquement, l'idée a également fait son chemin, ce qui fait que, au bout d'un moment, les politiques se sont dit, effectivement, l'Est, on l'a beaucoup aidé, et c'était bien légitime, mais maintenant, on va répartir les fonds d'aide à la modernisation des territoires sur l'ensemble de l'Allemagne. Et c'est dans ce cadre aussi, après un énorme effort en direction des nouveaux lenders, avec une bonne partie du chemin quand même accompli, qu'on a décidé maintenant de procéder autrement et que le Soli va être donc aboli pour l'énorme majorité de la population.
Alors comment expliquer que cet effort de rattrapage de l'ex-RDA ait eu lieu dans les années 90 et fonctionné dans les années 90 et se soit peut-être arrêté à la fin des années 90, comme vous le disiez Anne Sall, on va en parler. Je vous propose d'abord d'écouter un extrait du film Goodbye Lénine, sorti en 2003. L'histoire se déroule quelques mois après la chute du mur de Berlin. Alex, un jeune Allemand de l'Est, cherche à échanger de l'argent liquide que sa mère avait caché.
Et alors, qu'est-ce que vous voulez en faire?
Bah, l'échanger.
Je suis désolé. Le délai pour l'échange est dépassé depuis 2 jours.
Mais c'est un cas exceptionnel.
On vient de retrouver l'argent.
Mais on est d'accord pour l'échanger à 4 contre 1 ou 5 contre 1 ou...
La loi n'a pas prévu de prolongation de délai. Je suis désolé. Et puis, de toute façon, on n'échangeait pas le liquide.
C'est impossible.
Il doit bien y avoir un moyen tout de même.
Vous m'avez parfaitement compris. Le délai est dépassé.
C'est toi qui es dépassé, pauvre abruti. Il s'agit de 30 000 marques. Ça a été notre argent à l'Est pendant 40 ans. Et il y a un connard de l'Ouest qui vient me dire qu'il est plus valable.
Je vous prie de quitter notre établissement sur le champ.
Bas les pattes. Qu'est-ce que vous regardez? C'était aussi votre argent. Me touchez pas.
Bande de salauds.
C'était aussi votre argent, Anne Sall. Qu'est-ce que cet extrait nous dit des difficultés de la réunification à partir de 1990?
Alors, c'est un vaste sujet, parce qu'en l'occurrence, il y a eu beaucoup de difficultés. On a d'abord eu une réforme monétaire, puisque là, il en est précisément question, qui était une réforme à vocation sociale et non économique. Tout à fait le contraire de la réforme qu'on avait eue en 1948, qui était une réforme qui était très injuste sur le plan social et qui a vraiment mis sur la paille une grande partie de la population en 1948, mais qui a par contre boosté l'économie. On a fait exactement le contraire au moment de la réunification. On a voulu effectivement faire une réforme qui valorisait les Allemands de l'Est. Hein. Il y a eu beaucoup ce discours de ne pas les considérer comme des citoyens de seconde catégorie, alors qu'on était sur une réforme qui était à la base économique, un changement de monnaie. Mmh. Donc effectivement, on s'est retrouvé à une augmentation de la masse monétaire due par cette réforme, qui a eu pour effet d'une part de rendre le coût du travail beaucoup plus élevé, forcément, puisque on a effectivement avantagé dans une certaine mesure les Allemands de l'Est. Cela induit également une production trop chère, des entreprises qui ont mis la clé sous la porte, du chômage à la clé. Donc cette réforme qui se voulait finalement favoriser les Allemands de l'Est, elle s'est retournée contre eux.
Et des Allemands de l'Est qui, à l'époque, eux-mêmes ne consommaient pas les produits fabriqués en Allemagne de l'Est, Michel Weinacher. Et c'est comme ça qu'on a assisté à un certain nombre de difficultés économiques.
Absolument. Il faut se souvenir que, en fait, les pays sous la houlette de Moscou étaient organisés du point de vue économique, comme nous, on a la communauté économique européenne à l'ouest. Il y avait ce qu'on appelait le Comecon à l'est, avec donc non pas une économie de marché, mais une économie planifiée, et la production était répartie entre les pays. C'est-à-dire, en gros, je caricature complètement. La Hongrie fabrique les savonnettes, la RDA fabrique des Trabants, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y avait une production qui était extrêmement définie, puis les Trabants, elles n'existaient pas en 46 000 options avec siège éjectable et toit ouvrant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait deux modèles de Trabants, en gros, une grille claire et une grille foncée. Là aussi, je caricature un peu, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que tous ces produits, évidemment, n'étaient plus ensuite demandés dans une société de marché. Je veux dire, les savonnettes grises, personne n'en veut. On veut des savonnettes fluo, je ne sais pas, mais en tout cas, les produits n'étaient plus attractifs dans une économie ouverte et une économie de marché. Voilà. Donc, l'idée, c'est que, ou pas tous en tout cas, enfin, il y a une nostalgie qui a ressurgi entre-temps sur la Trabant, évidemment, comme toujours, mais ces produits n'étaient plus attractifs. Et donc, effectivement, il y a eu des gros problèmes au niveau de la production liés avec également une productivité insuffisante et du coup l'économie est-allemande a mis du temps à se repositionner, mais du coup elle s'est positionnée sur des activités du 21e siècle, c'est-à-dire que ils sont très forts sur toutes les technologies de pointe dans le bio, dans le médical, le Brandebourg également est totalement innovant concernant les éoliennes, mais évidemment, tout ça ne suffit pas pour satisfaire absolument tout le monde. Donc, ça reste un petit peu compliqué.
On a assisté dans les années 90 à une privatisation au pas de charge de l'économie entière de l'ex-RDA, Ansal. Il y avait alors 8000 entreprises publiques qui employaient à peu près 4 millions d'individus. Et à ce moment-là, dans les premières années des années 90, on assiste à une croissance importante. Au début, un effet de rattrapage important.
Alors moi, je suis beaucoup plus négative sur ce qui s'est fait à cette époque, effectivement. C'est la Treuer & Einstein qui, effectivement, était en charge de la privatisation de l'ensemble de l'activité économique en Allemagne de l'Est et qui s'est reconnu aujourd'hui, n'a pas fait son travail de manière, comment dire, correct sans doute aussi par manque de temps. Donc il y a des bilans économiques d'entreprises qui ont été bâclés, il y a des entreprises qui ont été vendues pour un euro symbolique, un marque symbolique à l'époque, parce que les investisseurs s'étaient engagés à garder la main d'œuvre, donc ne pas licencier, à reprendre en particulier les dettes de l'entreprise, etc., à investir, et au final, très souvent, ces engagements n'étaient pas suffisamment contractualisés, c'est-à-dire n'avaient pas été suffisamment, comment dire, garantis par contrat. Donc bien souvent, ces investisseurs derrière n'ont pas investi, n'ont pas repris la main d'œuvre, ou du moins ont licencié massivement. Ça s'est fait dans quantité de cas, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a un cas par exemple de Elf Aquitaine qui a repris l'ONA, et ça a fini par une intervention du gouvernement fédéral auprès du gouvernement français qui est intervenu auprès d'Elf Aquitaine, qui comme beaucoup d'autres investisseurs, une fois qu'il avait repris l'entreprise, finalement n'était pas prêt à donner suite à ses engagements.
Ce sont les conditions, les circonstances de la privatisation de ces entreprises dans les années 90 qui expliquent aussi en partie les difficultés actuelles auxquelles fait face l'Allemagne de l'Est, Michel Benach. budgétaire.
Absolument, même si ce n'est pas la seule cause, hein, c'est beaucoup plus complexe, comme on a essayé déjà de le montrer. Mais en tout cas, ce que vient de dire Anne, eh bien, il faut bien comprendre que ça également continue à faire vivre ce qu'on a appelé le mur dans les têtes, c'est-à-dire en fait la problématique aussi bassie, c'est-à-dire en fait, je caricature, le gros bavarois arrogant qui arrive dans sa BMW et qui va nous apprendre tout à coup ce qu'est la vraie vie, et en fait avec des logiques peu sociales et assez agressive. Et en fait, ça a contribué aussi à beaucoup de frustration du côté de beaucoup d'Allemands de l'Est qui étaient en train de vivre des choses absolument dramatiques. Je veux dire, le président de la République fédérale allemande, Gauck, qui était lui-même l'un des acteurs de la révolution de 1989, l'a rappelé il y a quelques jours. Il faut quand même se rendre compte de ce que ces gens à l'Est ont vécu. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que 80% des Allemands de l'Est ont perdu leur travail après la réunification, et ensuite ils en ont retrouvé, mais souvent ils ont été obligés d'en changer plusieurs fois. Donc effectivement, des difficultés persistantes, une Treuhandanstalt, comme l'a dit Anne, qui a peut-être fermé trop de choses trop vite.
Et c'est pour cela qu'on a eu une croissance de 8% en moyenne, de 92 à 95, mais qui ensuite s'est arrêtée et qui, comme le disait Anne Sall, ensuite a eu du mal, ce rattrapage a largement ralenti.
Il a ralenti, mais il a tout de même continué, mais moins vite. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a eu un moment où il y a eu, donc, comment dire, le croisement de logique et de dynamique inverse. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui avait été mis dans cette économie aussi, comme je vous disais, quand même, des centaines de milliards d'euros dans les années 90. Et puis, ce que Helmut Kohl a promis, c'est-à-dire les Blühende Landschaften, qui est l'une des expressions les plus connues en Allemagne, il faut quand même se souvenir qu'en 1990, Kohl avait promis, en cas de réunification, des paysages florissants en Allemagne de l'Est au bout de 5 ans. Or, en 95, l'Allemagne de l'Est est totalement au fond du trou. C'est-à-dire que c'est le moment où le chômage est le plus élevé, il est au-dessus de 20% dans la plupart des Länder de l'Est, et puis les nouveaux emplois ne sont pas encore là. Donc là, il y a eu un croisement. Alors, les efforts ont fini par porter leurs fruits. Après, effectivement, dans la deuxième moitié des années 90, les paysages florissants ont commencé à émerger, mais avec beaucoup de dégâts sociaux, beaucoup de vies personnelles brisées, et ensuite, effectivement, eh bien, les choses ont continué. Le rattrapage s'est fait progressivement après, dans les années 2000.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Roquigny.
Gründlich durchgecheckt, steht sie da und wartet auf den Start. Alles klar, Experten schalten sich um ein paar Daten. Die Crew hat dann noch ein paar Fragen doch. Der Countdown läuft. Effektivität. Stimmt das an, denn man verlässt sich blind auf den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist im Stress, doch Major Tom macht einen Scherz. Dann hebt er ab und völlig losgelöst. Alles läuft perfekt, schon seit Stunden wissenschaftliche Experimente. Doch was nützen die, am Ende denkt sich Major Tom. Im Kontrollzentrum, da wird man panisch, der Kurs der Kapsel, der stimmt ja gar nicht. Hallo Major Tom, können Sie hören, wollen Sie das Projekt denn so zerstören? Doch er kann nicht hören. Er schwebt weiter, völlig losgelöst.
Major Tom de Peter Schilling sur France Culture, d'Entendez-vous l'écho. Michel Venachter et Anne Sall sont toujours avec nous pour parler des fractures sociales et territoriales en Allemagne. Alors il faut maintenant parler de cette question de la montée des inégalités sociales. Les travaux de Thomas Piketty, par exemple, ont estimé que depuis les années 80, l'Allemagne, comme la plupart des pays industrialisés, connaissait une montée des inégalités. Est-ce que vous partagez cette vision, Anne Sall?
Alors oui, ça ressort très clairement lorsqu'on étudie par exemple les salaires par décile, puisqu'effectivement on a une augmentation en Allemagne uniquement des salaires les plus élevés, c'est-à-dire le premier décile, et si on l'examine de plus près, c'est même la moitié du premier décile, donc les 5% des salaires les plus élevés qui ont vraiment augmenté de manière significative. Et plus les salaires sont bas, plus ils ont diminué. C'est-à-dire qu'on arrive même à des résultats négatifs pour des salaires bas en Allemagne. Donc il ne fait aucun doute effectivement qu'il y a eu une augmentation des inégalités, notamment salariales. Ça c'est très net.
Donc une fracture, des fractures territoriales et sociales en Allemagne, Michel Venachter.
Je voudrais juste compléter ce qu'a dit Anne. Effectivement, c'est une thèse qui est largement reprise et diffusée, juste pour apporter une petite nuance par rapport à ça. L'Allemagne, effectivement, a fait, dans l'élan de ses réformes des années 2000, a pratiquement bloqué les salaires pendant de très très nombreuses années, les syndicats jouant d'ailleurs le jeu. Et en fait, le deal, c'était, écoutez, soyez raisonnables, vous les syndicats, l'économie allemande a extrêmement mal. Je vous rappelle qu'en 2003, l'Allemagne était désignée par tout le monde comme l'homme malade de l'Europe. Ils avaient plus de 5 millions de chômeurs. Ça leur rappelait terriblement la fin de Weimar. Et on sait ce que c'est devenu ensuite. Et donc, Schröder, le chancelier social-démocrate, a dit maintenant, on a un système qu'on ne peut plus se payer tel quel. Et si on veut arrêter de s'endetter et d'endetter la génération future, on va maintenant essayer de faire ce qu'il faut. Et donc, en fait, le deal, c'était, les syndicats, s'il vous plaît, faites un effort. Et quand la croissance sera de retour, promis, vous aurez votre part du gâteau. Et de fait, ces dernières années, beaucoup de correctifs ont été apportés aux réformes sociales extrêmement dures qui avaient été faites dans les années 2000 et également au niveau des salaires. Donc c'est juste pour dire que par rapport à cette thèse des inégalités salariales, il y a deux choses absolument à dire. C'est que premièrement, le rattrapage salarial depuis le retour de la croissance, qui je vous le rappelle est ininterrompu en Allemagne depuis 8 ans, il y a beaucoup d'augmentation de salaire. Les syndicats obtiennent et réclament, parce que les syndicats allemands sont très puissants, des augmentations de salaire.
Ils le sont de moins en moins tout de même.
Oui, mais ils continuent à avoir un poids extrêmement important.
Par ailleurs, la croissance en ce moment, on est plutôt tenté de dire...
Oui, alors on est certainement à un tournant.
Dans une mauvaise phase.
Ce qui s'est passé, puisqu'on parle un peu de temps long et d'accroissement des inégalités. Et donc en fait, il y a eu des rattrapages non négligeables vraiment sur les salaires en Allemagne, et ça on le dit pas beaucoup en France ces dernières années, les syndicats demandent 3 ou 4% et les obtiennent. En France, on en rêve un peu, j'avoue. Voilà. Deuxième chose très importante, un chiffre aussi qui vient un petit peu équilibrer, on va dire, les choses. Ce qu'a dit Anne reste absolument incontestable, cela étant ce qu'on appelle la Lohnquote, c'est-à-dire, en fait, la part des revenus du salaire dans le revenu national est remontée à un peu plus de 69%, c'est-à-dire au niveau de ce qu'il était avant la réunification. Et donc, effectivement, cette part des salaires, elle a diminué pendant un bon moment, mais elle a nettement réaugmenté ces dernières années.
Alors justement, effectivement, restons sur le temps long et essayons de voir quel rôle a joué la dérégulation du marché du travail mise en œuvre par les lois Hartz entre 2003 et 2005 dans la montée de ces inégalités. Je vous propose d'écouter l'ancienne présidente du SPD, Andrea Nahles.
Bürgergeld, das wir wollen, soll zu keinem Zeitpunkt unter dem Existenzminimum liegen.
Le revenu de base que nous voulons ne doit jamais tomber en dessous du revenu minimum d'existence. Or, c'est ce qui se passe dans les faits avec le système des sanctions imposées par la loi Hartz IV. Par ailleurs, nous voulons toujours améliorer l'accès au travail. Les gens doivent pouvoir se passer de l'aide sociale et être rémunérés. Enfin, nous voulons aider les enfants. Nous avons 2 millions d'enfants qui bénéficient des aides sociales. Or, quand on est un enfant Hartz IV, c'est une marque lourde à assumer et c'est pourquoi je ne veux plus que des enfants se rendent aux aides sociales, mais plutôt qu'ils bénéficient d'une sécurité sociale de base. Voilà, on vient d'entendre Andrea Nahles, c'était en février dernier. Est-ce que vous partagez cette vision, Anne Sall?
Alors là, vous posez une question effectivement difficile sur Arts 4. Donc Arts 4, c'est vraiment également à nouveau un très large débat parce que ce sont effectivement des réformes Schröder, ce sont des réformes qui ont été reprises par Angela Merkel, puisque le gouvernement Merkel n'a que très peu réformé en réalité Arts 4, qui a donc effectivement été...
dont on dit qu'il aurait conduit à une forte baisse des revenus des chômeurs, alors, notamment.
Bon, moi, je suis beaucoup plus partagée sur cette question-là. Tout simplement parce que, oui, effectivement, au bout d'un an de chômage, quand vous avez Arts 4, vous avez un montant forfaitaire qui est bas. Hein, c'est de l'ordre de 400 euros pour une personne seule. Il faut quand même aussi avoir à l'esprit que un couple avec enfant va donc le toucher pour les quatre membres de la famille, par exemple. Ils vont également avoir une subvention pour le loyer et pour le chauffage. Au final, on arrive quand même à des montants dont on peut vivre, alors pas à Munich, pas dans des régions où le niveau de l'immobilier est cher, et ça c'est évidemment un autre problème qui sera peut-être évoqué, à savoir que les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté récemment en Allemagne, mais on est donc en fait sur des niveaux qui, en tout cas pour une famille additionnée des autres aides qu'on a pour le logement, pour la rentrée scolaire, etc., n'est pas si négligeable que ça. On a pour une personne seule, c'est plus difficile.
On a beaucoup dit que les lois Hartz 1, 2, 3 et 4 avaient contribué à la création de travailleurs pauvres en Allemagne. Michel Venachter, il y aurait 6,5 millions de mini-jobs en Allemagne, mais avec l'augmentation du salaire dont vous parliez tout à l'heure, vous diriez aujourd'hui qu'on ne peut plus critiquer de la même façon les lois qui ont été passées dans les années 2000.
Alors, on vient d'aborder trois sujets en même temps dans la question. Là. Alors, on va essayer de... Alors, les travailleurs pauvres, ils sont là. Et ils sont là probablement pour longtemps et de façon massive. Bon, on les a aussi en France, voilà. Donc c'est dramatique et il va falloir essayer de faire au mieux pour voir comment emmener les gens vers un avenir du sens et des perspectives. Et ça va être compliqué aussi avec la digitalisation parce que souvent aussi les travailleurs pauvres sont des travailleurs qui manquent de qualifications. Alors c'est vrai qu'en Allemagne actuellement, il y a 200 000 offres d'emploi pour personnes sans qualification qui ne trouvent pas preneur parce qu'il y a un manque de main d'œuvre d'une part en Allemagne. Enfin bon, ça c'est une autre thématique qu'on va aborder après. Mais il y a un véritable problème sur tous ces travailleurs pauvres, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi toutes ces aides dont parle Anne, qui existe aussi et qui fait que globalement, elles sont quand même meilleures que sur 90% de la planète, voire 98%. Donc il faut, évidemment, c'est toujours une question qui est relative. Et quand je parlais d'augmentation des salaires ces dernières années, attention, c'est pas les travailleurs pauvres qui sont concernés, qui vivent de mini-jobs. Ce sont tous ces salariés qui, eux, sont dans des entreprises, dans des emplois industriels, dans des emplois à temps plein, et qui ont des syndicats pour les défendre et pour négocier les salaires.
Enfin, le salaire minimum a été augmenté aussi. Il est passé à 9 euros de l'heure en janvier 2019.
Alors, absolument, on n'a pas encore évoqué cet aspect-là. C'est-à-dire qu'en fait, le salaire minimum a été introduit en Allemagne. Angela Merkel l'avait fait lors de son deuxième mandat, quand l'Allemagne commençait à aller mieux, parce qu'effectivement, tous ces correctifs qui ont été apportés, l'Allemagne n'a pu, et ces adoucissements, on va dire, l'Allemagne n'a pu les apporter que parce qu'elle a réussi à rétablir sa situation économique. Et quand vous allez mieux, vous pouvez penser à refaire du correctif social. Donc en fait, effectivement, Angela Merkel avait commencé à introduire du salaire minimum, alors à la version de CDU, on va dire, c'est-à-dire elle a laissé faire les partenaires sociaux branche par branche, et ensuite dans sa grande coalition avec le SPD, il a été décidé effectivement de généraliser le SMIC. Alors en Allemagne, ce qu'on sait très peu aussi en France, c'est que avec un emploi à temps plein, on gagne plus en Allemagne au SMIC qu'en France. Donc comparons ce qui est bien comparable.
La question, c'est effectivement, est-ce que cette augmentation du salaire minimum, donc à 9,19 euros de l'heure, est une bonne nouvelle aussi pour les mini-jobbers, Anne-Salle ?
Alors, je voulais justement revenir sur les mini-jobs, parce qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit qu'en emploi principal, ce sont souvent des femmes. Les deux tiers, ce sont des femmes. Et ce sont des femmes qui en font le choix délibéré parce qu'il y a un système fiscal qui favorise les mini-jobs puisqu'ils sont totalement défiscalisés et qu'on bénéficie à plein du quotient conjugal. Donc effectivement, davantage fiscaux lorsqu'on est marié. Donc c'est souvent un choix de femmes mariées qui élèvent leurs enfants, qui veulent travailler à temps partiel. Derrière, il y a quand même un énorme risque de pauvreté à la retraite, ce dont on n'a pas toujours conscience. Mais
avec des inégalités entre hommes et femmes très importantes au moment de la retraite.
Très importantes, parmi les plus importantes d'Europe, sur l'Allemagne de l'Ouest en particulier. Mais il faut donc bien avoir à l'esprit que dans bien des cas, le mini-job, c'est un choix délibéré. On va le retrouver également chez les seniors, on va le retrouver chez les retraités, on va le retrouver chez les étudiants, par exemple. Donc effectivement, c'est quand même un emploi d'un type très particulier. Donc moi, je rejoins Michel sur le fait que le problème de pauvreté, ce sont souvent pas forcément les mini-jobbers, parce que eux, ça va être dans le cadre, par exemple, d'un couple où le mari gagne suffisamment, ça va être en complément de la retraite ou des étudiants qui, effectivement, font ça à côté pour financer leurs études.
La pauvreté se trouve plus du côté des retraités.
Alors, la pauvreté se trouve au niveau des retraités sans l'ombre d'un doute, et on va effectivement avoir des personnes qui vont travailler, mais vraiment en CDI, donc pas en mini-job, et qui se retrouvent quand même avec des salaires qui sont bas. Et effectivement, on a constaté que le salaire minimum n'avait rien changé. Le taux de pauvreté est inchangé depuis l'introduction du SMIC allemand.
Alors, ça fait en l'occurrence un an qu'il a été augmenté, un petit peu moins d'un an, mais vous diriez, Michel Venachter, qu'il y a aujourd'hui plus de retraités pauvres en Allemagne qu'en France, et si oui, est-ce que c'est à mettre en lien justement avec les lois Hartz dont on a parlé?
Alors, sur le constat, il est indéniable, c'est même très clair. Je veux dire, la France est l'un des pays où le taux de pauvreté chez les seniors est le plus faible, et l'Allemagne, avec le Portugal, est le pays où le taux de pauvreté des seniors est le plus fort, au contraire, dans toute l'Union européenne. Donc ça, c'est absolument incontestable, et ça ne va sans doute faire que s'aggraver, puisque les carrières ont été, non pas des carrières continues, avec un nombre de trimestres que vous pouvez cumuler et avoir éventuellement une retraite, donc à peu près correcte à la fin, mais des carrières très interrompues, avec des phases plus ou moins compliquées et plus ou moins difficiles. Donc effectivement, il y a un vrai problème, et c'est l'une des inquiétudes des Allemands aujourd'hui sur leur retraite. Et alors l'idée, effectivement, c'est que avec une population vieillissante, le problème est encore plus complexe à résoudre. Et c'est la raison pour laquelle les Allemands n'ont cessé de repousser l'âge légal de départ à la retraite, avec là encore quelques adoucissements ces dernières années, notamment en direction des femmes, sous la grande coalition de CDU-SPD précédente. Donc il y a eu des correctifs qui ont été apportés. Mais en gros, si vous voulez, la démographie vient sérieusement compliquer une pyramide des âges, qui en réalité a plutôt maintenant doucement la forme d'une pyramide inversée, si vous la visualisez. Et donc, les Allemands travaillent de plus en plus longtemps, et ils ont fait quand même maintenant des correctifs sur les carrières longues, c'est-à-dire les gens qui commencent à travailler extrêmement jeunes vont pouvoir effectivement partir plus tôt. Mais c'est un vrai problème.
Population vieillissante, Anne-Sahl, et en même temps, vous me disiez que en Allemagne de l'Est, mais peut-être même aussi en Allemagne de l'Ouest, la fécondité repartait.
Oui, alors effectivement, en Allemagne de l'Est, comme Michel avait dit tout à l'heure, on a eu un effondrement de la fécondité après la chute du mur. Le nombre de naissances a été divisé par deux. Donc, il faut vraiment se représenter ce que c'est. On est même tombé à 0,73 enfants par femme, 0,7. Donc, un niveau vraiment incroyable à l'échelle d'un ancien État. Et là, ça remonte. Ça remonte depuis 3 ans à l'Est et à l'Ouest. Alors, à l'Est, commence à remonter bien plus tôt que ça. À l'Est, on est désormais légèrement au-dessus du niveau de l'Ouest. On est à environ 1,6 enfants par femme désormais. Il faut vraiment noter que c'est une progression remarquable. C'est la première fois qu'on atteint ce niveau depuis le début des années 70. Donc ça fait quasiment un demi-siècle.
Et alors comment expliquer ce retour cette hausse des taux de fécondité, Anne-Sahl?
Alors la hausse du niveau de fécondité, alors à l'Est, c'est évident qu'il y a eu un phénomène de rattrapage, donc il y a eu aussi des naissances tout simplement reportées, mais tout n'a clairement pas été compensé. On a eu des réformes de politique familiale très importantes en 2005-2007 qui n'ont pas produit d'effet dans les années qui ont suivi, parce qu'il a fallu un certain temps avant que la population s'en empare et vraiment se les approprie. Parce que c'était des réformes qui impliquaient de mettre son enfant en crèche au bout d'un an, ce qui était totalement à l'inverse de la culture ouest-allemande où on garde son enfant pendant 3 ans. Donc effectivement, les lignes sont en train de bouger. On voit effectivement se développer en Allemagne de l'Ouest un modèle qui est « je reste à la maison pendant un an et demi et ensuite je reprends ». Là où il y a encore 15 ans, on s'arrêtait 3 ans. Donc on avait des périodes d'interruption extrêmement longues, parmi les plus longues d'Europe une fois de plus.
Les lignes sont en train de bouger, dites-vous, et en même temps, on a encore un écart de salaire entre hommes et femmes qui est l'un des plus élevés d'Europe en Allemagne, Michel Venachter.
Effectivement, alors en moyenne de 12%, ce qui est... Ah si, une fois de plus, il faut comparer ce qui est exactement comparable, parce que si vous prenez, enfin voilà, la situation égale, etc. Donc effectivement, il est... alors... Il est de 12%, et en fait il y a une prise de conscience de plus en plus forte dans la société pour lutter contre ça. Il y a de gros débats publics sur ces questions-là. La question se repose sous
différentes formes également au niveau de la représentation des femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises et le reste. Donc on avance sur le dossier, mais on avance doucement, comme dans beaucoup de pays européens. Quand on regarde la représentation française à l'Assemblée nationale, jusqu'à il y a quelques années, on était en gros la lanterne rouge de l'Europe. Donc effectivement, mais c'est une question qui se pose de plus en plus, et on va avoir besoin des femmes dans la société allemande encore plus, y compris sur le marché du travail. Et donc elles vont devenir une main-d'œuvre, j'allais dire, extrêmement prisée, puisque comme on a commencé tout juste à l'aborder, il y a un manque de main-d'œuvre clair lié à ces problèmes démographiques prolongé de l'Allemagne, et que donc on va avoir besoin également que les femmes se mettent plus et plus longtemps au travail, et donc je pense que leur salaire, eh bien, risque de s'en trouver amélioré. L'autre voie, c'est la voie législative, et les Allemands y songent éventuellement aussi.
Anne-Salle, sur la situation des femmes et peut-être aussi sur le manque de main-d'œuvre en Allemagne.
Oui, alors d'abord sur la situation des femmes, je voulais quand même rappeler qu'en Allemagne de l'Est, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en Allemagne de l'Est, on a une tradition effectivement des crèches héritées de la RDA. Donc les Allemandes de l'Est travaillent, elles travaillent en général à temps plein. Elles s'interrompent beaucoup moins qu'à l'Ouest, donc on n'a pas du tout les mêmes parcours biographiques qu'à l'Ouest. Et ça, c'est vraiment resté. Donc effectivement, la problématique par exemple des retraites n'est pas la même à l'Est qu'à l'Ouest pour les femmes, déjà. Donc effectivement, pour revenir sur ce point. Alors sur la question de la pénurie de main-d'œuvre. C'est un point où j'aimerais effectivement bien qu'on remette les choses à leur place, parce que ce qu'on lit ne correspond, de mon point de vue, pas vraiment à ce qu'on a en Allemagne. Si on regarde très clairement les statistiques et les recherches qui ont été menées là-dessus, nous n'avons pas à proprement parler, à l'heure actuelle, de véritable pénurie de main-d'œuvre. On a actuellement une réserve de 3,5 millions de personnes. On a un taux de chômage qui laisse encore de la marge de manœuvre dans beaucoup de régions allemandes. On a en réalité un nombre d'actifs record. On est à 45 millions, c'est le niveau le plus élevé qu'on ait jamais atteint. Ça fait 53% de la population allemande. Prenez la France, on est à 42% avec 27 millions. Donc on a beaucoup plus d'actifs en réalité. Pourquoi ? Parce que la plupart des baby-boomers sont encore en activité. Mais le gros d'entre eux a entre 50 et 60 ans. Ce qui veut dire que là, dans les 10 années qui viennent, ils vont partir très massivement à la retraite. Donc actuellement, en fait, on a un niveau très favorable. On a vraiment l'un des meilleurs ratios qu'on ait eu. Mais ça va basculer, et ça va basculer très vite. Ce qui veut dire que là, en 2030, la situation sera radicalement différente. Et là, on va avoir de grosses difficultés. En revanche, on a bel et bien, d'ores et déjà, des goulots d'étranglement dans certains métiers. Alors ça ne fait aucun doute. La médecine, les métiers médicaux, paramédicaux en général, tout ce qui tourne autour du médical, c'est évident.
Notamment à l'Est.
À l'Est, en particulier à cause des salaires. Parce que des médecins qui se forment à l'Est vont évidemment chercher les meilleurs salaires à l'Ouest. Hein, ça c'est sûr, ça fait quand même vraiment une différence significative. On a également d'autres métiers où on a ce phénomène de goulot d'étranglement, la mécatronique, c'est-à-dire mélange de mécanique et d'électronique. On a actuellement 2 postes pour un candidat. Donc on a vraiment bel et bien des domaines où c'est compliqué. Mais si on prend le marché du travail globalement, en fait, on couvre la demande.
Vous partagez cette vision, Michel Venachter, et aussi je voulais vous poser la question de la formation qui va évidemment de pair avec cette question d'un manque de main-d'œuvre qualifiée dans certains secteurs de l'économie.
Effectivement, tout à fait. Évidemment. Alors l'idée, c'est que on va effectivement avoir une bascule. Avec le départ à la retraite d'une partie de la population. Mais j'insiste sur ce qu'a Diane, je le souligne, en France, très souvent, on dit « Ah ben oui, mais les Allemands ont un taux de chômage bas parce que, de toute façon, ils n'ont pas d'enfants et donc il y a moins de monde sur le marché du travail. » Donc ça, c'est totalement simplificateur, et c'est ce qu'on entend malheureusement généralement en France, puisqu'effectivement, il n'y a jamais eu autant d'actifs en Allemagne. Donc ça, effectivement, il fallait le souligner. D'autre part, la question que vous posez, celle de la formation, est cruciale. Les écoles allemandes, là encore, pour beaucoup, sont en très mauvais état du point de vue de leurs infrastructures, sont sous-équipées. Les Allemands commencent à se rendre compte que c'est l'une des clés pour l'avenir, c'est évidemment la formation en général, la digitalisation en particulier, et ça a été un débat parmi les plus importants en Allemagne l'année écoulée, et même l'année d'avant d'ailleurs, parce que il y a un énorme besoin de ce point de vue-là. L'Allemagne là a des gros besoins de rattrapage. Et
il y a un manque d'investissement pendant des années, dans l'éducation, dans la formation.
Évidemment, et aussi on va manquer d'enseignants, tout simplement, on en manque déjà, et il faut imaginer que la situation est en train de se complexifier, puisque vous avez quand même une arrivée importante récemment, donc d'une population de population étrangère, hein, avec
1,5 million en 2015.
Même si actuellement les chiffres ne sont plus du tout ceux qu'ils étaient en 2015. Donc en 2015 c'était presque 1 million, mais ensuite ça a baissé. Mais vous avez donc beaucoup aussi d'enfants qui sont arrivés et qu'il faut scolariser. Et évidemment le corps enseignant n'a pas été du tout formé à cela. Or il est évident que, étant donné la démographie là, à moyen terme, l'intégration de ces migrants dans le marché du travail, et notamment des jeunes pour plus tard, à la fois du point de vue social et du point de vue économique, va être crucial. Alors, les chiffres sont déjà assez impressionnants sur ce qu'ils ont réussi à faire depuis 2015, il faut bien le dire, mais il reste énormément de travail et ça va coûter, là encore, également des dizaines et des centaines de milliards. Et c'est pour ça que l'Allemagne également mène une politique budgétaire aussi stricte et tient à ce que ses finances publiques restent en ordre, parce que il y a des très gros défis. Alors, ne parlons pas du défi de l'environnement, de grosses décisions vont être prises après-demain en Allemagne là-dessus, mais également le défi, évidemment, de la formation et de l'intégration.
Et puis un mot, on arrive au terme de cette émission, mais un mot peut-être sur la hausse des prix de l'immobilier que vous commenciez à évoquer, Anne Sall. On voit qu'aujourd'hui, avec la hausse des loyers, il y a des inégalités qui se renforcent encore un peu plus.
Alors c'est un problème qui concerne en particulier justement les retraités. On a bien dit que les retraites étaient à un niveau effectivement bas, que un des moyens d'augmenter les loyers, ça avait consisté en Allemagne, par exemple, à effectuer des travaux dans l'appartement et à augmenter très considérablement les loyers derrière, ce qui obligeait les retraités à quitter finalement les appartements et à donc à se reloger, ce qui était évidemment compliqué pour beaucoup d'entre eux.
Oui, car il faut juste souligner que l'Allemagne connaît la plus forte proportion de locataires d'Europe, 47%.
Tout à fait. Effectivement, on est à une proportion, vous l'avez dit, de propriétaires de 53%. C'est beaucoup plus bas que beaucoup d'autres pays d'Europe. Et le gouvernement y a mis bon ordre, puisqu'il y a plusieurs mois, au printemps dernier, le gouvernement a donc interdit les augmentations de loyers abusives, donc suite justement à des travaux, par exemple, effectués dans les appartements. Il n'empêche qu'il n'y a pas que les personnes qui sont actuellement en location. Il y a eu effectivement beaucoup d'investissements dans l'immobilier, notamment à Berlin sur les dernières années, parce que Berlin était l'une des capitales les moins chères d'Europe. Le rattrapage a été considérable et on se retrouve dans une situation où, voilà, de fortes hausses en particulier sur la capitale, mais pas seulement dans toute l'Allemagne, c'est très perceptible.
Un dernier mot, Michel Venachter, sur ces fractures économiques, sociales, territoriales qui traversent aujourd'hui l'Allemagne et dont on a parlé tout au long de cette émission. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ?
Alors, l'Allemagne connaît ses fractures, tous les pays européens en connaissent, la montée des populismes se fait partout, avec des populistes qui instrumentalisent évidemment aussi ces fractures. Je voudrais juste essayer de finir par une note un petit peu positive. En Allemagne, il y a quelque chose qui s'appelle la société civile et qui a l'habitude de se mobiliser, et notamment dans les Nouveaux Länder où l'AfD est en train de... Enfin, ex-Nouveaux Länder, où l'AfD est en train de monter, il y a des centaines d'associations sous forme de collectif avec le hashtag Unteilbar, c'est-à-dire indivisible, qui se mobilise et qui se manifeste de la façon la plus claire pour justement dire, d'abord pour rappeler l'indivisibilité des droits de l'homme, mais aussi que les uns ou les autres n'arriveront pas à fracturer la société allemande. Voilà.
La force de la société civile donne des espoirs, Anne Sall.
Oui, tout à fait, effectivement, et on l'a vu dans les mobilisations auxquelles on a pu assister, puisque nous avons à l'Est des manifestations Pegida et nous avons des contre-manifestations pour rappeler effectivement qu'il y a aussi une autre Allemagne et que l'Allemagne de l'Est ne peut pas être réduite au phénomène Pegida et consorts.
Et c'est l'heure du journal de l'Écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
128 milliards de dollars en 48 heures injectés par la Fed sur les marchés américains, opération inédite depuis 2008 pour la Banque centrale et inquiétante pour l'économie américaine.
Eh bien, en tout cas, c'est bien en urgence que la Fed a décidé cette double injection de 53 milliards hier et 75 milliards de dollars aujourd'hui, 128 en tout de liquidités pour contrer une situation elle-même inédite à l'issue du week-end. C'était l'explosion d'un taux de refinancement à très court terme, dit repo, habituellement autour de 2%. Il est passé à 6 puis à 10%, faisant faisant craindre une réaction en chaîne. Alors à cela, beaucoup de raisons dites techniques ont été avancées pour ce qui est finalement un soubresaut boursier, mais un soubresaut pas anecdotique après un week-end très mouvementé sur le plan international et surtout dans une période de forte incertitude déjà pour l'économie et les marchés américains. Écoutez ce qu'en dit Pierre Arnaud, il est maître de conférences en civilisation américaine à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense, spécialiste de l'économie américaine.
Effectivement, il y avait un manque de liquidité. La question allait de savoir quelle est la cause de ce manque de liquidité. Aujourd'hui, on avance un certain nombre de raisons qui sont des raisons techniques. C'est que bon, les entreprises américaines devaient payer leurs impôts. Donc, effectivement, elles avaient des grosses sommes à sortir, que le gouvernement fédéral devait aussi renflouer un peu son compte auprès de la réserve fédérale, et donc il a lui-même appris des liquidités, etc., etc. Si ces raisons techniques sont réelles, à ce moment-là, on peut dire que c'est une intervention ponctuelle qui ne préjuge pas, je dirais, d'un manque global de liquidités. Hypothèse numéro 2, effectivement, il y a de moins en moins de gens prêts à prêter, parce que effectivement, ils craignent pour l'avenir. Cette injection d'argent va forcément avoir un effet bénéfique sur l'offre d'argent et donc sur les taux. Mais quelles sont les répercussions, notamment du point de vue de la psychologie de masse ? Ça peut aussi conduire à un surcroît d'inquiétude sur d'autres problèmes dans, je dirais, l'économie et la finance internationale. Par exemple, les emprunts étudiants américains qui sont largement titrisés, c'est-à-dire disséminés dans l'économie internationale, en réalité, ils ne sont pour partie pas solvables.
Et ceci intervient, Xavier, alors que le comité de politique monétaire de la Fed devrait encore baisser son taux directeur aujourd'hui.
Oui, la question là est de savoir si elle va continuer la ligne là aussi inédite qu'elle avait prise en juillet avec une première baisse des taux, vous en parliez dans cette émission, depuis 11 ans, entre 2 et 2,25%. Là, elle pourrait le baisser encore d'un quart de point à 1,75%. Mesure d'assouplissement pour fluidifier le système financier ou sous la pression de Donald Trump, ce n'est pas tranché, ce sera un prochain sujet.
On passe au bref, finance et marché toujours. Cette fois, c'est le président français qui parvient à lever 5 milliards d'euros pour la French Tech.
Et oui, 5 milliards de financement privé sur 3 ans pour les start-up ou pépites, ces entreprises à haute valeur ajoutée qui peuvent subitement entrer en phase de hyper ou super croissance et donc avoir de gros besoins de financement. Annonce donc d'Emmanuel Macron lors des France Digital Days qui réunissent entreprises et investisseurs avec l'objectif d'obtenir 25 licornes, c'est-à-dire selon l'expression, une entreprise valorisée sur les marchés à plus d'un milliard de dollars d'ici 2025. Elle serait actuellement 7 à 9. Donc, vous voyez, beaucoup d'ambition pour fabriquer un écosystème dans ce marché mondial ultra dominé par les États-Unis et tout un nouveau vocabulaire à apprendre.
Aux États-Unis, justement, une licorne crée sa cour suprême.
Et oui, c'est Facebook qui vient d'annoncer la mise en place d'un comité indépendant de surveillance dont les décisions seraient contraignantes pour l'entreprise elle-même. Décision prise dans un contexte délicat pour l'image de l'entreprise accusée de laxisme face à des contenus dangereux, hein, comme la vidéo de l'attentat de Christchurch, mais aussi d'avoir utilisé des données d'utilisateurs à leur insu. Mark Zuckerberg montre patte blanche et déclare que lui-même se soumettra à ce conseil payé par une fondation indépendante. Cependant, ses 40 membres n'interviendraient que sur la modération des pages, pas les algorithmes.
Et pour finir, Xavier, la production pétrolière saoudienne sera rétablie à la fin du mois.
Et oui, affirmation hier du ministre Abdelaziz Ben Salman qui prévoit 11 millions de barils de pétrole par jour à ce moment-là, fin septembre, et puis 12 millions le niveau d'avant ce week-end, donc fin novembre. Ces annonces ont fait baisser la pression sur les marchés. Les deux barils de référence WTI et Brent perdaient plus de 5 et 6% respectivement. Weathering in Belfast's death, we go look for dark. Where no flag is waving red, we look for dark. Out where there's no whites of eyes, out where there's no stars. Casting far and watching night, we go look for dark. Raising hands to God down the aisle.
Free of the Feeling de Jessica Hoop. Merci beaucoup Michel Levenachter et Anne Sall de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, on parlera de la transition écologique en Allemagne. On se demandera si le pays n'est pas en train de perdre son pari énergétique. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.